Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous vivons aujourd'hui, comme nous avons pu le voir dans nos précédentes études, dans des moments tumultueux. Et dans ces moments tumultueux, il y a plusieurs possibilités. Nous pouvons devenir nous-mêmes confus, perplexes, ou nous pouvons entendre la voix de Jean-Baptiste lorsqu'il se tournait vers Jésus-Christ qui venait à lui et qui s'écriait « Voici l'agneau de Dieu ». On peut aussi devenir sentimentaliste, mais ici aujourd'hui, dans notre temps de contemplation, on veut s'attarder sur les choses qui sont trop souvent mises de côté. On veut prendre du temps tant qu'il nous reste du temps. Parce que aujourd'hui ne nous est pas promis. Aujourd'hui est un don. Ce n'est pas un dû. C'est un don de Dieu dans l'époque de notre temps de grâce. Et Dieu nous fait grâce et Dieu n'est pas arbitraire. Il ne nous frappera pas de jugement sans que nous ayons compris toute l'amplitude des choix qui nous incombent de faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais que on s'attarde sur la réalité de notre besoin très fort de ressentir notre besoin de l'amour de Dieu. C'est un besoin, on a un besoin de ressentir notre besoin. C'est notre premier besoin, c'est de le ressentir. Et quand on le ressent, alors nous pouvons le recevoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, Dieu a permis qu'une condition de choses se soit développée au sein de la nation d'Israël qui faisait naître dans le cœur des gens un désir, un espoir de recevoir et de voir le Messie. Et aujourd'hui, nous vivons une époque où la connaissance du Messie a été propagée et elle a aussi été foulée aux pieds. Nous vivons, après les années tragiques de la Révolution française, dans une société à travers le monde où l'amour de Dieu a perdu la connotation profonde qu'elle possédait auparavant. Parce que l'athéisme qui s'est propagé depuis les années de la Révolution française a créé une condition de choses à travers le monde où la révélation de l'amour de Dieu ne crée plus un impact dans le cœur des gens. Et la Révolution française n'était réellement que le fruit amer des enseignements des prêtres et des prélats de l'Église catholique romaine. C'est la triste réalité. Et aujourd'hui, alors que nous contemplons ces choses, nous sommes mis face à face avec la réalité que il y a une crise inévitable qui nous attend dans le très proche futur. Et pour élargir cela, nous voulons lire dans la citation du ministère évangélique à la page 317 au paragraphe 2 où l'esprit de prophétie nous parle ainsi de cette crise et de notre relation à cette crise imminente. Il est écrit « Le Seigneur désire que nous venions sur la montagne » pour nous trouver plus directement en sa présence. Nous sommes sur le point d'aborder une crise qui, bien plus que jamais auparavant, depuis le commencement du monde, demandera l'entière consécration de chacun de ceux qui se réclament du nom de Christ. Donc il y a une crise. Et la prophétesse la voyait comme future. Et cette crise a commencé déjà lorsque la Première Guerre mondiale a explosé. Ensuite, il y a eu un temps de repos, de relâche, où les hommes ont été permis de souffler, et ensuite la Seconde Guerre mondiale est venue mettre le monde entier encore dans la confusion, la désolation et le massacre. Et au cours des années de la guerre froide, de nombreux autres conflits plus localisés ont vu le jour sur cette planète, mais jamais dans une telle amplitude, une telle ampleur, une telle force que dans la dernière guerre mondiale. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans un même temps de calme en comparaison avec ces périodes qui ont précédé de guerre. Et encore une fois, la guerre va éclater, mais cette fois-ci, ça sera la dernière. Et le conflit, une crise. Nous sommes sur le point d'aborder une crise qui, plus que jamais avant, demandera notre entière consécration. L'entière consécration de ceux qui se réclament du nom de Jésus, de ceux qui se disent croyants, de ceux qui se disent chrétiens. Cette crise demandera une complète, une parfaite consécration qui est absolument impérative pour pouvoir traverser cette crise. L'esprit de prophétie nous dit que jamais auparavant nous n'aurons eu besoin d'une telle consécration. Et cette consécration qui nous est demandée par cette crise, et pas simplement, mais notamment ici par cette crise imminente, elle doit être entière. Une consécration entière. Et donc à la lumière de cet appel, qui n'est autre que l'appel à la gloire de Dieu, conformément à notre série présente, nous voulons élargir encore davantage en écoutant plus encore ce que l'esprit de prophétie nous révèle au sujet des événements imminents. Nous allons pour cela dans la citation qui se trouve dans le livre Éducation à la page 258 au paragraphe 4. Avant ce paragraphe, il est question du spiritisme qui a introduit dans le monde des enseignements qui ont un effet absolument destructeur sur la morale de l'être humain. Et à la suite de cela, elle dit, en même temps, donc en plus de cela, l'anarchie cherche à balayer toutes les lois, non seulement divine, mais humaine. Donc elle parle du temps présent. Dans ce temps présent où elle vivait et dont nous sommes encore plus concernés aujourd'hui, parce que ces choses-là se sont amplifiées depuis l'époque d'Ellen White, en ce temps présent, il y a un esprit d'anarchie qui cherche à balayer les lois non seulement de Dieu, mais les lois des hommes, qui contiennent quelque peu le désordre encore aujourd'hui. Elle continue. La concentration des richesses et des pouvoirs, les vastes combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses, les associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs intérêts et leurs revendications, l'esprit d'agitation, de révolte et de carnage, la propagation à travers le monde de ces enseignements qui ont conduit à la Révolution française, tout cela entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle qui bouleversa la France. Donc l'esprit de prophétie nous dit ici que une condition de choses est en train et était déjà en train de se développer à son époque qui tendait et qui menait le monde entier vers une lutte semblable à celle qui a bouleversé la France en 1793. Cet esprit d'anarchie, d'agitation, de révolte et de carnage. C'était déjà à son époque ce qui apparaissait et à combien plus forte raison aujourd'hui. Et donc cela fait partie de cette crise qui est imminente, que nous sommes sur le point d'aborder et pour laquelle nous avons besoin d'être entièrement consacrés. Donc les nations et les peuples sont aujourd'hui dans la confusion et la colère. Vous pouvez le voir aujourd'hui d'une manière absolument sans précédent que les nations sont irritées les unes contre les autres et que les peuples sont dans l'agitation, dans la révolte, dans la colère et l'esprit d'insurrection et d'anarchie anime les esprits. C'est ce que nous lisons ici dans ces deux citations que nous venons de contempler. Donc il y a des vastes combinaisons, des alliances, des unions destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses, et donc cela révolte ceux qui sont plus pauvres et qui sont réunis par des associations pour défendre leurs intérêts et leurs revendications. Et en raison, en conséquence de cela, l'agitation et l'esprit de révolte et de carnage animent les citoyens des pays et développe une condition de choses qui est semblable à la lutte qui a bouleversé la France. Le roi Louis XV avait l'habitude de dire « Après moi, le déluge » parce que il visait à satisfaire et à pourvoir à ses propres désirs, mais il discernait très bien que tout cela ne faisait qu'amasser une préparation de destruction. Et c'est la même condition de choses aujourd'hui. Des vastes combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses amassent les richesses pour eux et cela révolte les peuples. Et toutes ces choses sont préparées insinueusement pour mener à une lutte, une crise. Et face à toutes ces choses, on se demande, mais quelle est la réponse, quelle est la solution que Dieu peut bien avoir en réserve pour une telle condition tragique des choses où l'avenir ne promet rien de positif. Et pour cela, on veut se tourner dans Matthieu, chapitre 22, verset 17 à 21. En cette époque en laquelle nous vivons, comme nous l'avions lu précédemment, les cœurs défaillent de frayeur à la pensée des choses qui vont survenir sur la terre. Et alors que ces cœurs défaillent de frayeur, que les hommes rendent l'âme de frayeur en pensant, en ne serait-ce que qu'en pensant à ce qui se prépare, quelle est la réponse Quel est l'appel de Dieu au cœur des hommes qui défaillent aujourd'hui et qui ont soif d'une réponse, ont soif d'une solution durable et véritable et divine. On lit ici dans Matthieu 22, verset 17. Les pharisiens avaient envoyé certains de leurs disciples avec des hérodiens pour poser des questions à Jésus et lui dire ceci. « Dis-nous donc ce qu'il te semble de ceci. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ?» Mais Jésus, connaissant leur malice, répondit. « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit, « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui dirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, il voulait piéger Jésus et l'entendre dire que il se soulevait contre le gouvernement romain pour pouvoir l'accuser. Mais Jésus a ici souligné la limite divine entre notre devoir envers le gouvernement et notre devoir envers Dieu. Rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire le tribut, la taxe, l'impôt, quelle que soit cette taxe qu'il demande, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ici, le Seigneur Jésus dirige la mentalité, la pensée de celui qui lui pose la question vers une question bien plus importante. Parce qu'il ne s'est pas contenté simplement de dire ce que nous devons rendre à César, mais il a ici introduit le sujet de ce que nous devons aussi à Dieu. Et c'est là que tout cela prend de l'ampleur et de l'importance où Dieu dirige notre attention vers des choses qui, au préalable, ne suscitaient pas notre attention, mais qui ont été amenées à notre attention à travers d'autres choses, des éléments de crise dans la société. Donc c'est ce que nous avions vu précédemment, c'est que, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 7, les quatre anges qui se tiennent aux quatre coins de la terre retiennent les vents jusqu'à ce que les enfants de Dieu soient scellés en leur front, comme nous l'avions contemplé de long en large précédemment, mais ils relâchent également les vents pour réveiller et remuer ceux qui se réclament du nom de Christ et leur faire comprendre qu'ils ont besoin d'une entière consécration pour la crise qu'ils sont sur le point d'aborder. La crise complète, totale. Donc ils délivrent une partie des vents, et les vents dans la Bible sont un symbole du tumulte des nations et des peuples à travers les guerres ou les révolutions. Ces anges qui reçoivent l'ordre de retenir les vents les relâchent également afin que nous réalisions notre besoin d'une entière consécration pour la crise complète et totale qui arrive et au seuil de laquelle nous nous trouvons actuellement. Et Jésus attire également notre attention vers autre chose, comme nous allons le voir et ce que nous allons élargir davantage aujourd'hui. Et pour cela, maintenant, nous voulons lire dans l'esprit de prophétie, encore une fois, dans le livre « Conseil à l'Église », à la page 255 au paragraphe 4. Et cette citation est directement en relation avec cette scène que nous venons de lire dans Matthieu. Il est écrit « Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique. On voyait partout des abus criants, des extorsions, de l'intolérance et d'horribles cruautés. » Et n'est-ce pas ce que nous voyons également aujourd'hui, autour de nous, à travers les nations, à travers les peuples? Et quelle était la réaction? Quelle était l'attitude adoptée par Jésus-Christ? Je continue. « Cependant, le Sauveur ne tenta aucune réforme politique. Il n'attaqua pas les abus nationaux. » Donc les abus nationaux, cela veut dire que s'il y a des abus criants, Jésus n'a pas attaqué cela. Et pourquoi n'a-t-il pas abordé ce sujet? Pourquoi ne s'est-il pas lié aux intérêts d'une association pour réclamer la justice vis-à-vis de ces abus criants? Il y a écrit, il n'attaqua pas les abus nationaux. Il ne condamna pas les ennemis de sa nation. Il ne s'ingéra pas dans les affaires de l'autorité et de l'administration des hommes au pouvoir. Donc Jésus dans sa vie montrait qu'il pratiquait exactement ce qu'il a déclaré aux Hérodiens et aux disciples des pharisiens, à savoir « rendez à César ce qui est à César ». Et si vous connaissez ne serait-ce qu'un peu l'histoire de l'Empire romain païen, notamment du temps de cette occupation de la terre d'Israël par les Romains, vous savez que l'empereur romain était un dictateur. Jésus-Christ a dit « rendez au dictateur ce qui est au dictateur ». Vous voyez, c'est là que la parole d'inspiration nous appelle à considérer attentivement comment nous réagissons aux choses qui nous entourent. Est-ce que nous y réagissons selon notre propre envie, selon nos propres appréciations, nos propres interprétation des événements, ou est-ce que nous vivons selon les préceptes de Jésus-Christ? Il ne s'ingéra pas dans les affaires de l'autorité et de l'administration des hommes au pouvoir. Celui qui était notre exemple se tint à l'écart des gouvernements de la terre. Non qu'il fût indifférent aux maux des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas simplement dans des mesures humaines et externes. Pour être efficace, le remède devait atteindre chaque homme individuellement et régénérer le cœur. Donc comme Jésus a dit, oui à César, rendez ce qui est à César, mais n'oubliez pas, rendez également à Dieu ce qui est à Dieu. Donc oui, il y a tous ces abus criants et nationaux, mais je vous demande de ne pas vous ingérer dans ces choses, mais considérez attentivement avec moi que Dieu a un droit sur votre âme. Il a un droit, mais il ne forcera pas son droit et cette propriété qui est la sienne, parce que, comme nous allons le voir, Dieu cherche quelque chose d'autre que simplement comme c'est écrit ici, des mesures humaines et externes. Mais qu'est-ce que le Seigneur désire donc alors? C'est ce que nous voulons examiner. Pour cela, on se retourne encore une fois dans Jean, chapitre 1, notre lecture biblique, au verset 29. Et ici, Jean-Baptiste voyait Jésus qui venait à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, comme nous avons lu, le remède devait atteindre chaque homme individuellement et régénérer le cœur. Et Jean s'est exprimé en voyant Jésus par l'esprit d'inspiration. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il y a quelque chose sur quoi j'aimerais que l'on s'attarde maintenant. C'est une réalité qu'on a tendance à mettre de côté et pourtant qui est si essentiel aux maux des hommes pour remédier aux maux de nos cœurs. Parce que par nature, nous nous dirigeons vers des mesures externes et humaines, que ce soit par nos actions ou par nos pensées, mais en réalité, il y a un appel qui nous est fait par l'Esprit, où cet appel vient à nos cœurs et nous rappelle ce que Jean-Baptiste s'est écrié, que voici, il y a quelque chose à voir et à contempler dans cette personne de Jésus. Il disait « Voici l'agneau de Dieu ». Il s'écriait comme si il y avait quelque chose vers laquelle l'attention n'avait pas été dirigée, et cette chose, cette personne, elle venait ôter quelque chose au monde. Elle venait ôter ses maux, ôter ses douleurs, ôter les sources du mal qui réside dans le cœur de chaque homme. Mais, comme nous allons le voir, et d'ailleurs, Jésus n'était pas indifférent aux maux des hommes, mais il savait que le remède résidait dans plus que des mesures simplement humaines et externes, que pour être efficace, le remède devait atteindre chaque homme et régénérer son cœur. C'est la réforme que Jésus a entreprise à travers sa vie, une réforme de chaque cœur de manière individuelle et de manière indépendante de toute autre réforme humaine et externe. Et la réforme, elle commençait par cet appel de Jean-Baptiste qui consistait à regarder, à voir, à observer, à considérer l'agneau de Dieu. Et pour élaborer ces pensées, j'aimerais que l'on lise dans le livre « Puissance de la grâce » à la page 25 au paragraphe 5, où il est écrit ceci. « Christ est le seul remède pour les péchés et les douleurs de l'humanité. Seul l'évangile de sa grâce peut guérir les maux qui rongent la société. Lui seul donne, en échange du cœur pécheur, le nouveau cœur d'amour. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est cette réforme que le Seigneur Jésus est venu entreprendre et accomplir et opérer sur cette terre? Seul l'évangile de sa grâce peut guérir les maux qui rongent la société. Seul l'évangile de sa grâce peut est la réelle solution à ces maux. Et donc, vouloir implémenter des réformes pour venir en solution à ces maux, c'est passer à côté de la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu en cette terre. Il n'est pas venu pour appliquer simplement des mesures humaines et externes, mais il est venu pour atteindre chaque homme individuellement et régénérer chaque cœur individuellement. Et lui, il donne, en échange de notre cœur pécheur, le nouveau cœur d'amour. Et il crée une régénération pour ceux et dans le cœur de ceux qui réalisent, comme nous l'avons vu au début, leur besoin de l'amour de Dieu. J'aimerais également lire une citation dans le livre Jésus-Christ, à la page 11, au paragraphe 3, où il est écrit que « parce que Dieu était méconnu, les ténèbres ont envahi la terre. Pour dissiper ces ombres lugubres, pour ramener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. » Et voilà cette question que Jésus a soulevée dans sa réponse. L'emploi de la force ne pouvait produire ce résultat car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement divin. Dieu ne désire que le service de l'amour. Or, l'amour ne se commande pas, il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. Donc, nous avons besoin d'être régénérés en nos cœurs, de comprendre comment nous pouvons atteindre cette entière consécration pour satisfaire, pour faire plaisir à Dieu. Et ici, nous lisons que l'amour seul éveille l'amour. En d'autres termes, pour pouvoir obéir à Dieu, nous avons besoin de l'aimer. Comme Jésus l'a exprimé, il a dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. » Et si vous inversez ces choses, vous réalisez que le sens de ces paroles, c'est que pour garder ces commandements, il faut l'aimer. Pour pouvoir garder les commandements de Dieu, il faut l'aimer. Et d'ailleurs, Dieu ne désire pas d'autre service que le service de l'amour. Il désire un service qui provient du cœur. Or, vous voyez ici que Dieu s'est retrouvé face à un terrible dilemme, c'est que l'amour ne se commande pas. Et c'est là vraiment le centre, le noyau de notre méditation aujourd'hui. L'amour ne se commande pas. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Et comment pouvez-vous inspirer en quelqu'un de l'amour pour vous, pour qu'il puisse non seulement vous aimer, mais vous obéir? Comment pouvez-vous créer, susciter en quelqu'un un désir de vous aimer? L'inspiration nous dit ici que l'amour seul éveille l'amour.
Donc seulement, c'est seulement en aimant que Dieu pouvait créer en nos cœurs un amour pour lui. Et la phrase qui suit celle-ci nous donne un indice et un élargissement sur cette pensée que nous sommes en train d'essayer de saisir dans nos esprits. Il est écrit « Connaître Dieu, c'est l'aimer ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Connaître Dieu, c'est l'aimer. Jésus a dit dans sa prière au Père, dans Jean chapitre 17, il disait « C'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Et quel genre de connaissance ? Connaître Dieu, c'est l'aimer. Mais quel est le sens de cette phrase véritablement ? Est-ce que le sens, c'est que Dieu nous dit ici, si vous connaissez Dieu, alors vous l'aimerez ? Ce n'est pas vraiment le sens. Ça fait partie, mais le sens premier, c'est que pour aimer Dieu, il nous faut le connaître. Et si nous le connaissons véritablement comme tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, comme Jésus l'a exprimé dans sa prière, alors l'amour de Dieu va éveiller en nous l'amour pour lui. Comme c'est écrit dans 1 Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc, ici maintenant, frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question que je me pose également à moi-même pour remuer les entrailles de mon âme et de nos cœurs. Est-ce que l'amour de Dieu éveillera notre amour simplement par notre simple connaissance théorique du fait que Dieu nous aime? Et déjà, vous pouvez discerner la réponse à cette question. Parce que il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, que pour être transformé, pour aimer Dieu de manière vivante, de manière réelle, comme Jésus l'a dit, en gardant ses commandements, il y a une activité qui est nécessaire pour l'être humain. On a vu au début de notre méditation que nous avons besoin d'une entière consécration, mais comment cette consécration viendra-t-elle ? Comment cette consécration sera-t-elle imprégnée dans nos âmes, suscitée en nos cœurs ? C'est ici écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Donc, comment sommes-nous transformés de gloire en gloire, ou autrement dit de caractère en caractère, comme le dit l'Esprit de prophétie? Comment sommes-nous transformés? Il est écrit ici que en contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Donc il y a une activité de contemplation, et c'était ce que Jean-Baptiste déclarait sous l'esprit de l'inspiration. Il disait « Voici l'agneau de Dieu !» Regardez cette personne. regardez cette révélation. Il suscitait l'intérêt des spectateurs. Et aujourd'hui, Dieu veut susciter notre intérêt en cette réalité que nous avons besoin de contempler cet amour de Dieu pour que cela éveille en nous un amour pour Dieu. Et pour que cela éveille en nous l'amour de Dieu lui-même. Nous avons ce besoin, frères et sœurs, si nous réalisons l'imminence de la crise qui vient. Mais pas simplement cela, parce que la crise en elle-même n'éveillera pas en nous un amour profond pour Dieu et de Dieu. Tous les bouleversements possibles sur la terre ne pourront créer, susciter un désir pour Dieu. D'où est-ce que ce désir va venir? D'où cette nouvelle vie va survenir? La parole nous dit que l'amour de Dieu nous amène à la repentance. C'est-à-dire que nous ne pouvons même pas créer en nous notre repentance, mais que l'amour de Dieu, lorsque nous le voyons, le contemplons, il crée pour nous, il crée en nous un amour réciproque et semblable. C'est quelque chose de vivant, frères et sœurs, c'est la chose vivante que Dieu veut créer en nous maintenant. Pas une mesure purement humaine et externe, mais un renouveau qui vient par une contemplation attentive de cette révélation de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et maintenant, j'aimerais que l'on prenne un peu le temps, parce que nous venons de voir que c'est en contemplant l'amour que l'amour peut être créé en nous, suscité en nous. J'aimerais pour cela maintenant lire dans le livre La vie de Jésus-Christ. Et ici, c'est la préface du livre qui a été écrit par les éditeurs. Et ce livre a été préparé en 1891, avant toutes les défaillances d'une église qui avait sombré dans l'infidélité. Et vous pouvez lire ici et entendre des expressions de personnes qui étaient animées par cet amour que nous venons de contempler. Et nous voulons que ces expressions d'amour nous contaminent et viennent animer nos propres cœurs. Je lis ici, dans la vie de Jésus-Christ, page 3, paragraphe 1. On disait du Fils de Dieu, qui était aussi le Fils de l'homme. De point, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il est également vrai que jamais homme n'a vécu comme il a vécu. Entre tous ceux qui sont nés de femmes, il est le seul dont il ait pu être dit « Il n'y a point de péché en lui. » Déchus que nous sommes de l'innocence de notre premier père, enveloppés à l'extérieur des influences du péché et obsédé à l'intérieur de propensités coupables, il nous est impossible de comprendre et à plus forte raison d'apprécier une vie semblable à la sienne, une vie sans péché. Tentés comme nous le sommes en toutes choses, jamais désir mauvais n'agita son cœur. Jamais pensée maligne ne s'éleva dans son âme divine. Et rappelez-vous ici que, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, que quoique cela soit vrai, il a été tenté comme nous en toutes choses, de telle sorte qu'il puisse être touché par nos faiblesses. Mais il n'a jamais chéri ces choses. Tenté comme nous le sommes en toutes choses, il n'a jamais aucun désir mauvais n'a été chéri par lui et nourri par lui. Et donc nous regardons cette personne, nous regardons celui-là. Paragraphe 2, qui peut écrire une vie comme celle-là? Qui peut retracer avec fidélité le zèle ardent qu'a porté Christ à faire la volonté de son Père dans tous ses actes, dans toutes ses pensées? Qui peut dépeindre son incessant amour pour ses ennemis, indigne créature de sa puissance? Et là, ils disent quelque chose qui mérite pour nous d'être remarqué. On l'a fort bien dit. Les hommes peuvent reproduire sur la toile le bois maudit du calvaire, mais non pas la malédiction de la loi qui le frappait. Les hommes peuvent dans un émouvant tableau retracer le spectacle de Christ portant la croix de son supplice, mais non pas le Christ portant les péchés de l'humanité. On peut dépeindre ses membres sacrés percés de clous, mais qui décrira la justice éternelle transperçant à la fois et sa chair et son âme. Donc, les gens dépeignent ses membres sacrés percés de clous, mais au-delà de cette vision physique, il y avait autre chose, c'est que Jésus portait la malédiction de la loi pour nous. Il était frappé du châtiment de nos péchés. Les hommes, ils peuvent peindre un émouvant tableau du spectacle de Christ qui porte la croix, mais ils ne peuvent pas peindre Christ portant les péchés de l'humanité. Cette réalité doit nous être révélée par notre contemplation attentive de la parole de Dieu et par la prédication de la croix. Ce sont ces choses que nous avons besoin pour susciter en nous. Nous voulons, de manière intelligente, écouter les descriptions de l'amour de Dieu pour que l'amour soit éveillé en nos cœurs. Cela nécessite que nous considérions de manière intelligente et spirituelle les choses que nous entendons et que nous lisons. Parce que Jésus avait dit à la femme samaritaine que Dieu désire des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, mais pas seulement, également en vérité, de manière intelligente. En esprit avec toutes les énergies et les émotions du cœur, mais en liant et en épousant cela à une considération intelligente de ce que Dieu essaye de me communiquer à travers ses paroles. Comme c'est écrit ici, qui décrira la justice éternelle qui transperçait à la fois sa chair et son âme? Vous voyez, frères et sœurs, c'est ce genre de choses qui appelle aux cordes sensibles de notre cœur. Dieu souhaite faire de la musique avec les cordes de notre cœur. Et pour que cette musique, cette harmonie, ces accords mélodieux soient créés en nous-mêmes, il faut que nous écoutions la mélodie, les harmonies, les accords des manifestations de l'amour de Dieu. Lorsque nous lisons ces choses, frères et sœurs, considérons de manière intelligente et spirituelle et laissons nos cœurs être pénétrés de ces harmonies, de ces symphonies, des révélations harmonieuses de cet amour que Dieu a manifesté en Jésus. Et donc, maintenant que nous avons considéré cela, j'aimerais également aussi lire maintenant l'esprit de prophétie dans ce même livre, La vie de Jésus-Christ, à la page 21 au paragraphe 2, où il est écrit ceci. On n'aurait jamais pu connaître l'étendue des terribles conséquences du péché si le remède auquel Dieu avait pourvu n'avait été d'une valeur infinie. La justice éternelle de Dieu s'abattait sur lui. Le remède était d'une valeur infinie. Je continue. Le prix immense qu'a coûté le salut de l'homme déchu, la majesté du ciel égale à Dieu donnant sa vie pour une race rebelle, ce prix immense demeure un mystère devant lequel les anges s'étonnent et dont ils méditent sans le comprendre l'infinie profondeur. Les anges plongent leur regard, comme c'est écrit, dans ce mystère et ils le méditent sans le comprendre. Ils méditent sans le comprendre son infinie profondeur. Donc si la profondeur de ce mystère du sacrifice immense qui a été fait pour notre salut, si ce sacrifice est si grand, s'il est infini et que les anges s'en étonnent et qu'ils le méditent sans le comprendre, à combien plus forte raison, frères et sœurs, devrions-nous y porter nos regards et y diriger nos affections et le laisser tourner et être remué dans nos cœurs. Pour que ces choses soient notre méditation constante et répétée. La majesté du ciel égale à Dieu donnant sa vie pour une race rebelle. Vous savez, si nous avons été conditionnés à apprécier et à aimer la musique du monde, les, entre guillemets, mélodies du monde, des musiques mondaines, de passer cela à la musique classique, au début, ça paraît très très amer, très très sans vie. Quelque chose manque. Il semble que quelque chose manque à cette musique qui est si peu répétitive, si peu, il nous semblerait, éloquente. Sauf que lorsque nous cessons d'écouter les musiques du monde, les accords mondains, les musiques avec beaucoup de basses ou avec beaucoup de percussions ou toutes ces musiques qui ressemblent beaucoup aux musiques vaudou qui étaient pratiquées en Afrique il y a encore pas tant de temps que cela. Lorsque nous nous écartons de cela et que petit à petit nous écoutons plus en plus de musique classique, ces accords mélodieux commencent à résonner dans nos cœurs. Et c'est pour cela que nous avons également besoin de contempler et d'insister sur l'amour de Dieu et sur la manifestation en Jésus-Christ de cet amour pour que de plus en plus nos cœurs discernent cette mélodie qui cherche à régénérer nos cœurs. et à produire en nous une entière consécration. Et d'ailleurs, cela nous ramène vers ce que nous avions considéré au début sur ces déclarations de Jésus, où il disait « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Et cet amour que Dieu manifeste, il nous appelle également. Il suscite en nous une réponse. Pas une réponse qui est une mesure humaine et externe, mais une réponse qui est une réponse qui vient d'un cœur qui a été réchauffé et stimulé au plus profond de son être par cet amour de Dieu. Nous lisons ici dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 14. Et je lis. « Car l'amour de Christ nous presse, étant persuadé que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Il y a quelque chose d'intéressant maintenant dans le verset 16. « C'est pourquoi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. » Donc il se peut que nous ayons connu Jésus-Christ selon notre compréhension charnelle de la théorie de l'amour de Dieu. Mais alors que l'amour de Dieu maintenant se développe dans un nouvel écho, dans de nouvelles sonorités dans nos âmes, alors quand bien même nous l'avons connu précédemment selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Maintenant, Jésus, je ne te connais plus de cette manière légaliste. Je te connais parce que tu as éveillé en mon cœur un amour par ton amour. Comme c'est écrit au verset 14, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Dieu ne désire que le service de l'amour. Et quand l'amour de Christ nous presse, nous offrons à Dieu le service qu'il demande et que nous nous réjouissons de lui offrir, le service de l'amour. L'amour ne se commande pas et donc Dieu a envoyé son Fils, il l'a sacrifié, pour nous montrer qu'est-ce qui était dans son cœur. Et comme c'est écrit autre part, Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui. Donc Dieu s'est lui-même manifesté à travers Jésus qui a caché sa divinité dans l'humanité, mais qui a malgré tout révélé les traits de caractère de Dieu. Pour notre bénéfice, pour notre profit, pour que nous partagions l'amour de Dieu. L'amour qui est en Dieu et qui s'appelle aussi la nature divine. Et donc il dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et nous disons, l'amour de Christ nous presse et s'il est mort pour tous, alors nous sommes persuadés que nous ne vivrons plus pour nous-mêmes, mais que nous vivrons pour celui qui est mort pour nous et ressuscité pour nous. Il y a un nouveau plan d'action qui éclot dans le cœur de celui qui a contemplé cet amour. C'est un plan d'action où cette obéissance est motivée par la manifestation de l'amour de Jésus, qui n'est autre que l'amour du Père. pour le pécheur vil et indigne. Et nous disons, Seigneur, comment est-ce que tu peux encore me supporter? Et nous entendons la voix de Jean-Baptiste, qui n'est autre que la voix de l'Esprit, qui nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et encore une fois, dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous entendons cet amour de Dieu qui veut susciter une obéissance, un service d'amour en nous. Et il dit, l'apôtre Paul ici nous dit sous l'inspiration, 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Donc juste avant, il disait, maintenant nous voyons que Dieu s'est donné, Jésus s'est offert pour nous pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous suivions cet exemple de sacrifice et de renoncement. Et ici, encore une fois, on nous dit que nous sommes, notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et donc que nous ne devons pas détruire le temple que Dieu veut se réserver à lui. Nous sommes libres de lui refuser l'accès à son propre temple qu'il a créé et qu'il entretient et qu'il préserve, mais il dit, ne faites pas ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et donc, quoi que nous fassions, frères et sœurs, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31, quoi que nous fassions, à la lumière de ces choses où nous apprenons que nous sommes, notre corps est le temple de Dieu où Dieu veut habiter, il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment cela faire tout à la gloire de Dieu? Quelle est cette gloire que nous venons de voir? Nous venons de la voir. En contemplant cette gloire, nous venons de voir l'amour de Dieu. Le caractère de Dieu qui Dieu est. Et maintenant, Dieu nous dit, vous êtes le temple de Dieu, ne détruisez pas le temple de Dieu. Mais quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout à la gloire de Dieu. Vous êtes appelés à sa gloire. Il les appelle, il les destine. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc cet appel, cette prédestination, elle est englobée, contenue en Jésus-Christ, car nous sommes l'ouvrage de Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu nous dit, faites tout à la gloire de Dieu. Épousez cette œuvre que j'ai accomplie pour vous en Jésus-Christ. Saisissez-vous-en, parce que il nous a manifesté un amour, et cet amour suscite en nous une réponse vivante, un service réciproque d'amour. Et donc maintenant, pour terminer, j'aimerais que l'on s'attarde brièvement sur les paroles de 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Et là, c'est le cercle de l'amour. C'est-à-dire que la loi nous condamne et Dieu suscite en nous par la manifestation du sacrifice et du, du prix qu'il paye pour nous racheter, il nous montre et nous console qu'il nous justifie en Jésus-Christ et maintenant qu'il nous justifie par cet évangile de sa grâce, il nous dirige encore une fois vers une obéissance et dans cette obéissance où nous souvent nous échouons, où la loi nous condamne, il dirige encore une fois nos regards et nos affections vers ce sacrifice qu'il a fait pour nous justifier malgré nos erreurs et nos fautes et nos péchés. Et lorsque nous nous sentons en nous cette réconciliation qui opère de manière réelle et tangible, maintenant il dirige encore une fois nos regards vers cet amour qui appelle à notre obéissance et encore et encore et encore et encore. Et c'est ce cercle dans lequel il veut nous garder. Et je lis ici dans 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Donc l'apôtre Jean, comme Jean-Baptiste, il s'exprime, voyez l'amour de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, qu'il veuille bien daigner nous appeler les enfants de Dieu. Des pécheurs, vils et des échecs, il est prêt à les appeler des enfants de Dieu et à les adopter dans sa famille céleste et divine. Et l'apôtre Jean dit, voyez cet amour, regardez, contemplez la gloire qu'il révèle à nos yeux. Et donc nous demandons, comme c'est écrit au verset 3, comment est-ce que le croyant qui a cette espérance en Dieu, en Jésus, se purifie-t-il? Comment est-ce qu'il va se purifier pour être semblable à Jésus lorsqu'il revient? Comment est-ce qu'il va arriver à cette entière consécration dont il a besoin pour faire face à la crise? Eh bien, comme nous l'avons lu, l'amour le presse. L'amour de Christ le presse, le contraint, le soutient, l'encourage et l'anime et crée en lui un désir de devenir comme Jésus-Christ. Et cet amour, au fur et à mesure qu'il est animé par cet amour, il contemple davantage le caractère de Dieu en Jésus et il est amené à se repentir, à confesser tous ces péchés qui lui apparaissent encore et encore de plus en plus. Il contemple comme dans un miroir la gloire de Dieu manifestée en Christ et il est transformé. Donc frères et sœurs, comme nous l'avons vu aujourd'hui, seul l'amour de Dieu peut éveiller en nous l'amour pour lui et créer en nous la foi qui agit par l'amour. Cette foi de Jésus qui caractérise le peuple du troisième ange. Et au fur et à mesure que nous nous saisissons de ces choses, que nous épousons ces choses, que nous adoptons, que nous faisons ces choses comme nôtres, que nous les approprions, l'amour de Dieu sera comme le levain qui fait lever toute la pâte. Ce sera l'élément qui transformera tout notre caractère. Et nous serons prêts pour traverser le temps de détresse de Jacob et survivre en ce temps-là. L'amour nous supportera, la connaissance de cet amour nous soutiendra. Puissent ces choses rester avec nous et puisse le Saint-Esprit les appliquer à nos cœurs de manière vivante. Amen.